Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes. Je suis son animateur, Dominique Montet. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @itsthedom, ITSZEDOM. Vous pourrez avoir plus d'informations sur les sorties du podcast. Et vous pouvez maintenant suivre le podcast sur Facebook, sur le compte Dialogue d'auteur. Donc n'hésitez pas à nous aimer, à nous laisser des commentaires, à nous faire des propositions aussi de scénaristes que vous aimeriez entendre dans l'émission. Aujourd'hui, numéro spécial, vu qu'on n'a pas un invité, ni deux, ni trois, mais cinq. Et oui, on a eu la chance de rencontrer la Mafia Princesse. Alors, la Mafia Princesse, c'est un groupe de scénaristes formé de Déborah Hassoun, Dorothée Lachaud, Alice Vial, Charlotte Sanson et Anaïs Carpita. Vous verrez, c'est un entretien qui est à la fois très instructif, mais aussi très très drôle. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Dialogue d'auteur est un podcast enregistré avec le partenariat de la Guilde Française des Scénaristes et de la SACD et enregistré dans les locaux de la Maison des Auteurs SACD.
Voilà. Bonjour la Mafia Princesse.
Bonjour.
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 On va commencer par un petit tour de table justement pour que les auditeurs sachent quelle voix vous avez. On va commencer à ma gauche. Donc, présente-toi.
Donc, Anaïs Carpita, scénariste. Faut que je me présente.
Vas-y.
Plus loin. Je suis sortie de la FEMIS il y a un peu plus de 4 ans maintenant, département scénario, la formation initiale de 4 ans. Et puis, depuis, je bosse un petit peu en cinéma, un petit peu en télé. Et voilà, et récemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé sur fin de saison 1 et saison 2 de PEPS, programme court TF1. J'ai bossé sur 10%, la série pour France 2, co-créée par Dominique Besnard et Fanny Herrero. Et puis, depuis, ça fait combien de temps qu'on est ensemble maintenant, avec la Mafia Princesse? Presque 4 ans. Voilà, on aimerait beaucoup vendre des concepts de séries écrites et pensées à 10 mains.
À toi.
Alors, moi, je suis Déborah Hassoun. Je suis sortie du conservatoire d'écriture en 2005-2006. Avant, j'avais déjà fait une formation de scénariste à l'UQAM à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. Et depuis, j'ai travaillé sur des séries principalement ados, comme Food, comme Cœur Océan, comme La Vie Devant Nous, comme Vive la Colo. Voilà, et puis cette année, je suis retournée à l'école où je suis allée à l'atelier scénario de la FEMIS, et donc j'ai développé un long, et c'est la première fois que je faisais vraiment du cinéma, parce que je suis une grande fan de télé, et là, j'avais une idée qui était une idée de cinéma, donc j'avais envie de la développer dans un cadre. Et voilà, et puis en parallèle, évidemment, il y a la Mafia Princesse, et puis j'ai d'autres gens avec qui j'écris, et puis voilà.
Bonjour, Dorothée Lachaud, moi je viens du documentaire. Voilà, c'est un peu mon pays et je revendique ce pays en fait comme terre d'inspiration pour l'écriture en général. Et voilà, et là ça fait 4 ans qu'on développe des projets de série avec la Mafia Princesse. Là, plus récemment, j'ai développé un autre projet de série qui a eu l'aide au concept du CNC. Et donc on est en train d'avancer avec ma co-auteure Félicia Massoni pour proposer un projet plus abouti à des producteurs je travaille à l'écriture d'un premier long métrage actuellement, voilà, qui est l'adaptation d'une histoire de documentaire aussi à suivre. Donc,
alors Charlotte Sanson, moi j'ai eu un parcours un petit peu plus chaotique avant d'arriver à l'écriture. J'ai commencé par faire la FEMIS en distribution exploitation. Après j'ai bossé 3 ans dans des festivals et des sociétés de distribution. Ensuite, j'ai été lectrice pendant un certain nombre d'années, ce qui m'a permis de décrocher un poste de chargée de développement en télé. Et c'est suite à ça, donc après avoir développé des projets de série avec des auteurs, que je suis moi-même passée à l'écriture. J'avais été sélectionnée au Festival des scénaristes, donc l'endroit où on s'est toutes rencontrées avec les autres de la Mafia. Et suite à ça, à l'époque, c'était à Bourges.
À Bourges.
Mais c'est le même festival, ouais.
Okay.
Et après, j'ai eu la Bourse Lagardère qui m'a permis de vraiment basculer vers le scénario complètement. Et depuis, voilà, je travaille sur des projets de séries et de longs métrages, souvent en binôme avec des réalisateurs. Et le seul projet qui a été diffusé à ce jour, pour l'instant, c'est Pilule Bleue, qui a été diffusé au mois de septembre sur Arte, coécrit avec Jean-Philippe Amard, qui a également réalisé l'unitaire.
D'accord. Ouais.
Bonjour, alors moi c'est Alice Vial, je suis scénariste, réalisatrice. J'ai pas fait d'école de scénario ou de réalisation, mais j'ai fait une école de théâtre, après mon baccalauréat, un conservatoire de quartier. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie d'écrire et réaliser. Donc, j'ai commencé à écrire un long métrage qui m'a ouvert quelques petites portes pour lequel j'ai eu une bourse Beaumarchais et j'ai été sélectionnée à Sopadin. Un prix de scénario.
Sopadin,
ouais, avec un D, non pas Sopalin, mais Sopadin.
Ah, ça pourrait faire.
Je l'annonçais à mes parents, ils ont beaucoup rigolé, j'étais très déçue de leur réaction, mais forcément ça sonnait pas hyper cool. Donc voilà, et depuis j'écris pour le ciné et la télé. Là j'ai coécrit un long métrage avec Sabrina Karine, un long métrage qui est réalisé par Anne Fontaine, le tournage vient tout juste de se terminer. Donc voilà, j'espère sortira à la rentrée scolaire. Voilà, là j'écris un long métrage que je veux réaliser. Je l'écris dans le cadre de l'atelier Fémis, comme Déborah, ce que Déborah a fait. Voilà, j'ai aussi réalisé 3 courts-métrages qui ont été produits, préachetés par des chaînes et tout ça. Et j'écris aussi pour la télé avec la mafia et je développe des projets voilà, avec des auteurs comme Mabrouk El-Meshri, voilà, Jean Calberac.
Quand j'ai commencé le podcast, j'ai très vite noté votre nom pour une émission, me disant ouais, ça serait bien et tout. Puis à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, tout le monde me disait tu les auras jamais ensemble, elles sont trop occupées cette année. Enfin, on les Déborah ne la voit plus. Enfin,
j'ai disparu.
Et justement, vous pouvez me parler un petit peu de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une vraie explosion de boulot un peu partout.
En fait. Bon, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on existe, mais cette année, on n'a malheureusement pas pu développer de projet ensemble parce qu'on était toutes très occupées. Et moi, la première, comme souvent, c'est, il faut quelqu'un un peu pour l'organisation, tout ça. C'est plutôt moi qui m'en occupe. Et c'est vrai que moi, en étant à l'atelier scénario, puis j'ai été aussi directrice littéraire chez Making Prod pendant 6 mois en même temps que l'atelier. Et donc voilà, c'était une année qui était plutôt consacrée à autre chose. Mais après, on a quand même beaucoup échangé entre nous. Et puis, puis pour boire des verres et manger, ça va, on a toujours à trouver des dates. Ça, c'est bon, on n'a pas trop de mal. Mais c'est vrai que c'était un peu une année en suspens. Et puis, parce qu'aussi, y a Anaïs qui a été sur 10%, sur Peps. Alice qui a eu beaucoup de choses aussi cette année avec Anne Fontaine qui s'est mise en route. Voilà. Charlotte, il y a eu Pilule Bleue. Donc voilà. Et Dorothée a signé beaucoup de docs cette année. Donc c'était une année un peu en suspens, mais on s'est dit aussi que ça faisait partie de notre collectif qui avait. Enfin, de l'idée de notre collectif qui avait moins de régularité peut-être que les autres collectifs qui se voient tous les 15 jours et qui font des retours ou qui travaillent sur de la dramaturgie et tout. Nous, on fonctionne au projet. Donc on écrit des projets ensemble. Donc c'est quand. On a le temps quand on a des projets ensemble, quand on nous propose des choses, quand on a envie, mais on n'est pas dans une obligation de productivité, quoi. Donc voilà. Donc ça a été un peu pour la mafia française qui a été tenue en suspens, mais là on espère que ça va recommencer parce qu'on a une boîte de prod qui nous a demandé un projet qui nous semble intéressant.
Et alors moi j'en profite juste pour dire qu'on a un site internet en fait et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois des producteurs peuvent nous contacter. On a eu souvent des bons retours. Nous, on avait hésité à en faire un en fait, parce que comme les projets pour l'instant n'avaient pas vraiment vu le jour, on s'était un peu posé la question de l'impertinence, oui. Voilà, de faire un site. Et en fait, c'est vrai que généralement le site plaît bien aux producteurs, ça leur permet un peu de nous identifier. Et puis,
oui, ça met un peu sur la carte et c'est pas. Enfin, en même temps, vous mettez vos projets, mais vous aviez peur de quoi? Que ça passe un petit peu pour on se met ensemble, mais en gros, on n'a rien à présenter.
Bah oui, c'est un peu compliqué d'avoir une vitrine et en fait de voilà.
C'est des choses en magasin, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Les rayons sont pas vides parce qu'on a quand même développé 2 projets ensemble qui ont été optionnés à chaque fois et qui ont eu leur vie en chaîne, qui ont été lus. On a eu des retours et c'était super encourageant. Mais c'est vrai que comme on n'a pas eu de projet signé, donc pas de projet encore réalisé, pas signé en chaîne et pas réalisé, pas diffusé. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, c'est vrai qu'on a des bons retours sur le site parce que ça montre nos univers respectifs, je pense, et en même temps notre univers global, parce qu'il y a les pitchs des 2 projets en question, Cousine et Manhattan Club. Donc, je pense qu'on arrive un peu à voir ce qui nous fait vibrer. Et voilà.
Je pense que les gens apprécient la démarche aussi de se regrouper en groupe, en pool comme ça d'auteurs dès l'origine. Ça, c'est Déborah qui avait eu l'idée quand elle nous a contactés individuellement après le Festival de Bourges, il y a donc maintenant presque 4 ans. Et c'est vrai que je pense qu'au niveau des producteurs, ça trouve un écho parce qu'il y a encore cette idée que les scénaristes français ont du mal à travailler à plusieurs pour des histoires soi-disant d'ego, de culture, etc. Et je pense que c'est important dans notre génération, et d'ailleurs on n'est pas du tout les seuls à le faire, d'afficher qu'on est prêt, prête en l'occurrence à travailler en collectif. Voilà. Et c'est vrai que quand on travaille à 5 d'emblée, Nous-mêmes, on sait bien qu'on laisse un peu notre ego à la porte parce que bah, voilà, si on a des projets perso à développer ou on veut absolument se battre pour nos propres idées, bah, on les fait par ailleurs, quoi. Quand on bosse à 5, on essaie vraiment d'harmoniser une idée qui plaît à tout le monde. Ça fait comme une espèce de jury, en fait. Et c'est vrai que quand une idée ne plaît pas aux autres, bah, on la développe pas, quoi. On n'y va pas en force.
Et après, ça faisait partie un peu des règles aussi de conduite de l'atelier où on laisse notre ego à la porte. Enfin, si on avait une petite charte à écrire, ça en ferait partie, quoi. C'est-à-dire qu'on a le droit de se couper la parole, on se juge pas sur nos idées, on voit si ça marche, si ça marche pas, on rebondit. Et de toute façon, on sait très bien que l'atelier, c'est aussi, y a une idée qui vaut pas grand-chose sur papier, mais qui amène une autre idée, qui amène une autre idée, qui amène une autre idée, qui amènera la bonne idée. Donc ça, c'est très important que la parole soit libre, et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup en parlant avant d'écrire. Enfin voilà, on a toute une méthode là-dessus qui fait que on a une confiance entre nous et on a créé un système d'atelier qui, je pense, peut s'appliquer dans d'autres ateliers. Après la chance qu'on a eue entre guillemets, le petit miracle, je dirais, c'est que ça s'est bien passé entre nous cinq. Ouais. Alors que c'était un pari, enfin moi quand je nous ai réunis toutes les cinq, c'était vraiment un pari qui aurait pu au bout de deux séances complètement capoter, et une ou deux auraient pu me dire bon non, tu sais, je me sens pas à l'aise, je sais pas, il y en a une qui prend trop de place, bon en l'occurrence ça aurait été moi, mais
même si c'est vrai que maintenant qu'on en parle, des beaux.
Voilà, bon, elles n'ont pas osé sur le coup, et maintenant elles sont enchaînées à moi. Non, mais voilà, c'est-à-dire que ça aurait pu aussi capoter. Et il se trouve que moi, je les avais senties aussi comme des filles qui avaient envie de vivre ce type d'aventure, qui voyaient l'écriture comme quelque chose de collectif, qui n'avaient pas un ego surdimensionné aussi, tout en ayant des ambitions et une volonté de faire bien les choses, en étant. Voilà, c'est-à-dire que. Voilà, moi j'avais senti toutes ces choses-là, mais c'était un peu un pari, quoi. Et c'est un pari qui a plutôt bien marché et qui nous permet à nous aussi, les choses qu'on apprend entre nous sur l'écriture, ça nous permet de les réutiliser avec d'autres. Et moi, en étant directrice littéraire, par exemple, sur In America, on a beaucoup, beaucoup travaillé en parlant avec Vincent Primo, beaucoup sur l'oral et en complètement libre, en lui disant on lâche le stylo, on lâche tout, on parle, on voit ce qui sort. Moi, bon, dans mon coin, je notais des petits trucs, des petites scènes, des petits machins et tout, mais l'idée, c'était un peu de, même si on n'était que deux, et pour le coup, j'écrivais pas, mais voilà, j'ai aidé Vincent à coucher des idées, et on parlait de la structure, on parlait de beaucoup de choses avant de se mettre à écrire, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc où j'ai pris confiance sur cette méthode-là parce que je l'ai testée entre nous, alors que j'aurais peut-être pas eu cette confiance-là si je savais pas ce que ça donnait comme résultat.
Mais je pense que pour nous toutes, c'était un peu une école à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est assez compliqué quand on est vraiment un très jeune auteur d'intégrer des pools d'écriture prestigieux sur des séries voilà, installées, etc. Oui. Et nous, comme ça nous a permis de pas attendre pour nous former à l'écriture en pool, en fait, quoi. Même si c'est évidemment pas pareil que quand il y a une chaîne, un producteur et tout, parce que là, c'était quand même autogéré. Mais le fait est qu'on a réussi à optionner assez rapidement les deux projets qu'on a écrits, donc on avait l'impression de ne pas s'être trompé sur l'organisation du travail, quoi, puisqu'on a réussi à travailler avec les structures de production avec qui on avait envie de travailler, et à chaque fois nos projets ont été bien reçus, quoi. Et d'ailleurs, il y en a un qui n'était pas passé loin en chaîne, en fait, on a un de nos projets qui a failli être retenu par NT1 et puis finalement c'était tombé à l'eau. Mais voilà, je pense que comme en plus nos carrières respectives continuent de progresser par ailleurs, il y aura forcément un moment où on sera plus à même de proposer un projet qui pourra...
Oui, les deux s'auto-alimentent, en fait, la carrière solo, la carrière collective.
Elles se nourrissent.
Oui, parce qu'en fait, je pense que dans nos projets personnels, on est assez confrontés à la solitude de l'auteur, qui est quand même le lot commun, je dirais, de la plupart, même ceux qui sont en collectif. Nous, le fait d'écrire en atelier, c'est vrai qu'on a une activité collective, mais en plus, il y a cette notion d'atelier, c'est-à-dire on arrive ensemble, on partage nos outils, et quand on repart, il y a un truc gratifiant, on a créé ensemble, alors parfois c'est bancal. Parfois, on se revoit la séance d'après, on se dit, bon, ben voilà. Mais en tout cas, il y a ce plaisir-là, et je pense que ce plaisir-là, voilà, on ne le trouve pas quand on va explorer un autre plaisir, quand on travaille en solo. Mais en fait, je pense que quand on s'est rencontrés sur La Mafia, et pourquoi Déborah, elle parlait un peu de magie, il y a un truc qui a pris, je pense qu'on avait tout envie de ça, en fait. Bizarrement, assez inconsciemment, peut-être, c'était inavoué. Et c'est vrai que quand la première fois qu'elle a posé le magnétophone et qu'on s'est mis à libérer la parole, c'était assez chouette, quoi. Bah déjà, il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de rire. C'était
ça, il y a un truc très joyeux.
On n'était pas derrière Word à essayer de rattraper les mots d'une parce qu'on aimait son idée. Bah, c'était libre, quoi. Et ça, c'était chouette. Même si après, c'est du boulot de transcription.
Bah, peut-être je peux faire un petit point sur ça pour ceux qui ne connaissent pas comment on travaille.
Oui.
C'est très simple. Hein. On allume un enregistreur au milieu de la table. On n'a pas de stylo, pas d'ordi. On a vraiment une parole libre. Alors, souvent, on a quand même une idée de concept quand on démarre. Enfin, il y a une base hein, de concept ou donné par une prod ou par nous, mais voilà. Et on commence à balancer toutes les idées qui nous viennent sur ce sujet, les personnages qu'on aimerait avoir. On raconte des histoires sur les gens qu'on connaît qui pourraient avoir un sens à remettre dans cette série. Il y a vraiment tout qui passe, nos vies perso, la vie de nos potes. Je préfère prévenir tous nos potes, ouais, on connaît tout. Voilà, j'efface l'enregistrement après. Voilà,
ah d'accord, je les rassure. Ouais. C'est pas sur un serveur avec risque de hack.
La boîte noire de la mafia française.
et donc, après... Voilà, ceux qui ont déjà participé à des ateliers, même pour des séries et tout ça, ils savent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui balance une histoire, ça fait penser à une autre histoire, ça fait penser à une autre histoire. Des fois, ça mène à rien. Et des fois, d'un coup, on se dit « Ah, mais ça, c'est un putain de personnage. Mais il faut qu'on ait un personnage comme ça, parce qu'il dit ça sur le monde qu'on a envie de raconter. » Et des fois, on est persuadé d'avoir trouvé une super idée, puis on se retrouve la séance d'après, puis on dit « Ben non, ça marche pas. » Voilà, quand je l'ai retranscrit, parce que moi, après, je retranscris... tout ce qu'on entend en fait. Mm-hmm. Après par exemple des fois on passe une heure sur un truc où je sais qu'à la fin on va dire bah non ça marche pas, donc là je retranscris pas, je réécoute et peut-être qu'il y a des petites choses. Mm-hmm. et par exemple il y a des dialogues aussi qui sortent en atelier et souvent on les perd en fait quand on a le Word et qu'on mm-hmm. voilà, et moi j'ai un fichier où je mets toutes les petites phrases et ça peut nous servir pour la Bible, ça peut nous servir pour donner de la matière, ça peut nous servir aussi pour savoir comment parlent les personnages. Et ça, moi, je fais plusieurs fichiers en fait. Donc, on a un fichier personnage, un fichier. Là, je parle d'une bible de série. Hein.
Oui, oui.
On a un fichier personnage, on a un fichier concept, un fichier intention, un fichier intrigue. Et au fur et à mesure, en fait, en gros, je remplis ces fichiers-là de notre parole en lissant un petit peu et en faisant les choix qu'on a décidé de faire. Donc, des fois, en revenant sur les notes d'avant, en se disant, bah non, en fait, ça, on l'utilisera pas. Bon, j'ai quand même un fichier au cas où, genre pour où j'efface pas totalement si jamais on y revient. Mais je le monte même pas au fil, celui-là, en fait. Moi, jusqu'au bout d'un moment, en fait, au bout d'un certain nombre d'heures de brainstorm, je dis au fil, bon, bah là, je pense qu'on est au stade où on peut passer à l'écriture et on se distribue les personnages. Alors, moi, en plus, souvent, pendant la... Enfin, il y en a qui sont là, moi je veux lui, il n'y a pas moyen, je fais lui.
Ah, d'accord, donc en fait, une fois que c'est... justement, parce que je me demandais comment on écrit à 5 sur des projets qui sont pas pris par une chaîne, où il n'y a pas déjà, toi c'était l'épisode, comment vous répartissez le travail? Donc là, vraiment, clairement, c'est chacun écrit un personnage pour la Bible, ou deux, ou...
Oui, voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe, mais après, on peut échanger les personnages si on sent
généralement, on tourne, en fait.
Tourne, ouais. D'accord.
Une fois que quelqu'un a rédigé un personnage...
Oui, après, il y a une deuxième
page. On repasse dessus, ouais.
D'accord, ok. Ouais.
Après, il y en a qui ont leur passion pour certains personnages et on les laisse parce qu'on sent qu'il va au bout de ce que ce personnage doit être. Mais il y a aussi... Nous, ça nous fait du bien aussi, à un moment, de dire, ah, mais moi, ce personnage-là, il y a un truc que j'arrive pas à trouver.
Ouais.
Même dans l'écriture, des fois, c'est pas forcément dans la caractérisation, mais comment formuler ça, et puis là, on le passe. Et puis, moi derrière, ça, je vois aussi l'avancée de chaque bloc. Et voilà, quoi. Enfin, voilà, ça avance au fur et à mesure. En fait, c'est assez naturel parce qu'une fois qu'on a beaucoup de matières orales qui sont retranscrites, finalement, l'écriture, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Et c'est en ça aussi que l'écriture devient moins quelque chose de douloureux que quand on est seul ou même deux. Parce que il y a moins à écrire. Parce que finalement, ce qui est compliqué des fois pour un scénariste, c'est pas d'avoir les idées. Enfin, pour moi, pour ma part, personnellement, c'est pas d'avoir les idées, c'est plus de se mettre à les rédiger et tout ça. Et là, on a moins à structurer et tout ça. Et là, on a moins à finalement, on a le regard des cinq et puis on a moins à écrire, donc ça va vite.
Oui, c'est important ce que tu dis. On a moins de volume. Du coup, on peut faire un travail un peu
plus précis,
d'orfèvre. Ouais. Parfois, ça donne un résultat pas génial. Hein. Mais je veux dire, on peut se concentrer sur... Et ça, c'est assez agréable, en fait, je trouve.
Oui, puis on sait qu'après, quand on a une première version de Bible comme ça, on relit toutes. Et puis après, il y a des beaux qui redispatchent, où on s'échange nos parties. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui a fait deux portraits de personnages, tout d'un coup, il va repasser sur la note d'intention ou
d'accord.
sur l'intrigue du pilote. Enfin,
ouais,
voilà.
Exactement.
Et puis aussi, enfin voilà, on parle beaucoup de qu'est-ce qui marche dans notre atelier et qu'est-ce qu'on propose aussi d'un peu, enfin novateur ou qui se fait pas forcément. Mais c'est aussi, on dit, on laisse nos égos de côté, mais je pense aussi ce qui fait que ça marche, c'est qu'il y a quand même une directrice de collection intégrée qui est Déborah, voilà, parce qu'elle nous a réunis. Bah si, si, moi, enfin moi je trouve, je pense que
oui,
sinon,
oui, pense voilà, il y a quelqu'un, pour
il faut à un moment donné
prendre le lead, sinon
voilà, prendre le lead, tête, lisser, trancher, on y va, on va là, on va pas
envoyer
là.
Des doodles,
voilà, envoyer des doodles, choisir des dates.
Ce qui est bien, c'est que je peux pas prendre la grosse tête parce que je fais aussi secrétaire, en fait. Okay, je suis à la fois secrétaire et directrice de collection, donc c'est bien, ça me remet bien à ma place.
Mais c'est vrai qu'au tout début, on s'était dit, si on a une qui amène une idée, peut-être on peut tourner sur ce poste-là, etc. Puis en fait, ça s'est un peu fait comme ça pour l'instant, que comme Déborah était à l'aise dans ce rôle, que c'est elle qui nous avait réunis, et puis que...
Elle a une prédisposition naturelle, hein.
Voilà.
Elle est
du
douée.
Coup, pour l'instant, on a toujours fonctionné comme ça. Et c'est vrai que comme ça s'est bien passé, et que ça a permis d'aller vite et tout, on n'a pas remis en question.
Oui, et puis j'imagine qu'au bout de 4 ans de fonctionnement, vous connaissez les points forts, il y a peut-être... Je sais pas, c'est peut-être systématiquement la même personne qui fait la note d'intention ou le synopsis.
Moi, j'ai des gros désirs de putsch hein, là-dessus. Hein. Je suis un leader parce que moi, venant de l'écriture de documentaires et de la réalisation, je suis auteure et réalisatrice de documentaires par ailleurs. Je suis un peu abonnée aux notes d'intention, ce qui est un... Voilà, j'aime beaucoup.
Elle c'est le fait très, très bien. Oui.
Surtout, non. Enfin, moi, je déteste faire ça, par exemple.
Oui, j'ai remarqué que c'était un truc... Non, non, mais par ailleurs, il y a des producteurs qui me payent pour écrire leurs notes d'intention, donc je pense que... Ouais, vraiment.
Ah, c'est vrai,
tu sous-traites aussi pour les dépôts d'aide à l'écriture.
Oui, et moi, j'ai beaucoup appris en lisant les notes d'intention de Dorothée, justement. C'est ça, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire en voyant...
Oui, bien sûr.
Moi, je trouve qu'elles ont toutes des grandes qualités en termes d'écriture, sinon c'est moi qui aurais été à l'atelier. Mais c'est vrai que je veux pas les réduire à ça parce qu'elles savent tout faire, mais il y en a qui ont un peu leur spécialité. C'est vrai que, par exemple, Alice en atelier, elle dégomme, quoi. C'est-à-dire qu'elle
elle dépote.
Elle te sort mais des idées, mais à la seconde, elle est là. Attends, là j'en ai une. C'est bon ça, attends, voilà. Là, je te balance ça, tu vois, là je te balance ça. Et t'es là. Alors,
pour la petite anecdote, elle lève le doigt quand même.
Elle lève le doigt, ouais, parce que.
Elle lève le doigt, mais elle parle en même temps. Donc,
tout à fait. Non, mais ce qui est génial, c'est que ça nous permet de rebondir. Comme elle balance du lourd et beaucoup.
Et même si des fois ça va pas, on s'en fout en fait. Elle est un atout essentiel dans l'atelier, dans le sens où.
C'est un geyser, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas une fontaine.
Je sais pas.
Un geyser.
Et par exemple, Anaïs, elle peut être plus discrète en atelier, mais après, par contre, au niveau de la structure des épisodes et au niveau de comment elle remet en forme la structure, tout de suite, elle est hyper efficace et dans l'écriture. Et voilà, mais elle est plus discrète. Mais quand elle dit un truc, on écoute tous parce qu'on se dit « Bon, alors attends, Anaïs dit un truc, on va y aller, on va prendre en note. » Et en général, c'est bon. Mais voilà, après, c'est chacun. Et c'est un atelier, ça a besoin de ça aussi, de différentes personnalités et de pas... Et de ne pas se juger là-dessus aussi. S'il y en a qui parlent un peu moins, il y en a qui parlent beaucoup.
Bien sûr.
C'est pas grave. Chacun apporte son truc. Il apporte à différents moments. Et puis, il y a des ateliers même où il y en a une qui dit, moi, je vous dis, les filles, je suis fatiguée. Je risque de ne pas sortir grand-chose. Bon, en général, au bout d'un moment, ça va, ça revient. Mais voilà, on comprend aussi que pendant une heure, des fois, on a fait des journées de 8 heures d'atelier. Donc, on comprend aussi que pendant 8 heures, s'il y en a une pendant une heure ou deux qui dit rien, c'est pas grave, quoi. Je dors, on n'est pas là.
On la vire pas, quoi.
Ouais.
On n'a pas trop eu de problème de silence, c'était pas trop le souci généralement.
Non, mais c'est pour dire aussi que c'est normal aussi qu'il y en ait des moments qui prennent plus la parole, d'autres non. Et ça, c'est très important, je trouve, de ne pas être dans le jugement là-dessus. Parce que, par exemple, un producteur qui vient assister à un atelier, moi j'en ai déjà vu, il y en a, ils s'attendent à ce que tout le monde balance des idées. Et c'est pas un atelier, c'est pas ça en fait. Un atelier,
c'est pas. Il y a certaines personnes qui ont besoin de réfléchir le truc. D'autres qui balancent justement. Et puis.
Voilà, et puis c'est. Et chacun a sa façon de dire les choses aussi, quoi.
Geyser.
Il y a eu une imitation de geyser.
Ça va être mis à jour sur le site, peut-être.
Ouais, ça peut être notre logo. Non, puis ce qui était intéressant aussi, c'est sur Cousine, qui était notre premier projet, celui vraiment où on a fait nos armes et aussi essuyé un peu les plâtres. On a eu la chance de travailler sur le pilote dialogué, la version dialoguée du pilote. Et ça, c'était assez intéressant. Tu peux peut-être en parler, expliquer comment on a fait. Enfin, c'était une immersion.
Je fais juste une petite aparté. Ouais. Je l'ai lu, je l'ai trouvé très bien. Ouais. Donc c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup en parler pour savoir... Comment vous avez procédé en fait ? Est-ce que quelle était l'envie de départ ? Est-ce que c'était vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire les idées de personnages, l'envie principale, puis une bible, puis un découpage de pilote, puis l'écriture de pilote, ou est-ce que vous avez tendance à faire des allers-retours ? Comment ça s'est passé sur Cousine ?
Alors là, sur Cousine, on avait avec le fonds pour le fonds d'innovation, on avait de toute façon une bible qui avait déjà été optionnée, je crois, deux fois déjà au moment où on l'a déposée. Donc c'était un projet au niveau de la Bible qui était déjà assez abouti, donc avec des personnages assez forts.
Un 26 jeux... minutes de comédie, juste pour préciser.
Oui, bien sûr, un 26 minutes sitcom, très sitcom, ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en France, mais nous, c'est une envie qu'on avait à ce moment-là sur ce projet-là. Et donc, on a gagné le fonds d'innovation, et donc pour le fonds d'innovation, il faut rendre un épisode dialogué. Donc, ça nous a obligés aussi à réfléchir à comment on allait écrire un épisode dialogué à 5, qui pour le coup, ça se fait un petit peu moins que des bibles ou des arches ou des intrigues.
Bien sûr.
Mais bon, on tenait à le faire à 5. Voilà, c'était une obligation. Enfin, on n'a même pas pensé à le faire autrement. Et donc, on s'est dit, on va se réserver 5 jours, 8 heures par jour. On s'est dit, il faut qu'on trouve une semaine où on est toutes libres. Et 8 heures par jour, on va se voir. Et au début, alors on avait déjà, dans la Bible, on avait déjà un peu des intrigues qui se dessinaient du pilote. Mais on s'est dit, voilà, déjà, premier jour, on se dit, quelle est l'intrigue A, quelle est l'intrigue B, quelle est l'intrigue C. Alors, pour ceux qui connaissent le sitcom, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est simple avec le sitcom, c'est que les intrigues sont moins liées qu'avec le 52. Elles peuvent être un peu plus parallèles. Donc, ça se prêtait aussi à l'écriture dialoguée à 5. Je ne suis pas sûre qu'au 52, ça s'y prête autant, enfin, aussi loin, en tout cas. On peut discuter des arches, des intrigues et tout, mais un petit peu moins, par contre, sur le parallèle. Et je me souviens plus exactement.
Le premier jour, on a quand même, on a regardé des pilotes de séries, tout simplement, comme voilà.
Vous avez regardé quoi ?
Alors, on avait regardé le pilote de New Girl, Madame est servie,
Modern Family,
Friends.
Mon oncle Charlie.
Ah oui, mon oncle.
Et puis Two Broke Girls, je crois que c'est ça.
Ouais, on avait regardé Two Broke Girls aussi.
Et voilà, c'était Debo qui avait fait. Quand je vous dis que c'est une vraie directrice de collection. Elle avait fait la sélection. On s'était débrouillé pour avoir tous les pilotes à ce moment-là, les regarder ensemble et vraiment réfléchir. Elles sont pas toutes faites de la même manière en termes d'intrigue. Il peut y avoir ABC ou A'. Enfin voilà. En termes de type d'intrigue. Et on s'est dit. T'as mal suivi, Alice. Et on s'est dit, voilà, on s'est vraiment interrogé, sous l'impulsion de Debo, à se dire, qu'est-ce qui va correspondre le mieux à notre sitcom, quoi. Voilà, quel modèle on va choisir, etc. Et après, on s'est mis à réfléchir aux intrigues qu'on avait envie de mettre dans ce
pilote. Et vous aviez choisi quel modèle ? C'est indiscret.
On avait choisi du Friends, je crois. D'accord. On avait fait assez simple, en fait, parce que aussi, on avait, c'était en termes de nombre de personnages.
Voilà, ouais.
Parce que comme on avait 5 personnages récurrents,
ça s'y prêtait plus que Two Broke Girls,
par exemple, qui est plus pour le coup du A' souvent, mais parce qu'il n'y a que 2 personnages et il y a des fois une petite C sur les personnages secondaires, mais bon, voilà, pas non plus. Pas à chaque fois d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous a fait réfléchir. Puis il y avait aussi une histoire, pas que de structure, il y avait aussi une histoire de ton. Quel type de sitcom on veut, parce qu'il y en a plein de sitcoms. Et par exemple, New Girl, ce qui est intéressant, c'est que New Girl, c'est pas du tout en rire enregistré. Et,
non, bien sûr.
Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu moi ce que j'appelle des new sitcoms. Je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais j'appelle ça comme ça.
Et, single cam.
Comment ça s'appelle ?
Single cam.
Ah, single cam, d'accord. Parce qu'il y a qu'une caméra, alors que dans les autres, il y en a deux. D'accord. Et donc voilà, tout ça, c'était une réflexion qu'on a eue ensemble pour savoir quel type de sitcom on voulait écrire, quoi. Et après, on a démarré sur les intrigues, en effet. Intrigue A, intrigue B, intrigue C. Qu'est-ce qu'on avait envie de raconter? La difficulté d'un pilote qui est de la présentation tout en étant dans l'action.
Bien sûr.
Voilà. C'est-à-dire que tout ça, c'est des discussions qu'on a eues qui étaient un peu théoriques, mais qui nous ont permis, nous, de créer notre boîte, quoi.
Après, on est allé vite dans le concret et je crois qu'il me semble qu'on a fait les fils à fil d'intrigues tout ensemble, en fait.
Mmh,
et
exactement.
Qu'après, on s'est partagé pour vraiment purement le dialoguer. Enfin, on savait tout ce qui allait se passer. Hein. Mais après...
Je crois que c'est toi qui as un peu fait les
j'ai fait en fonction des binômes.
Il y avait aussi un truc d'affinité avec la team Puceau. Hein. On était quand même deux à vouloir faire absolument le dépucelage. Donc,
D'un personnage.
Il y a une intrigue, un personnage.
Donc Charlotte et Alice avaient très envie de
dépuceler
la team Puceau.
Team Puceau.
Voilà.
Voilà. Et vous étiez.
Nous, c'était Géronto. Hein. On faisait l'intrigue sur la grand-mère. Voilà.
Dorothée et moi, donc. Qui n'est pas du tout pucelle. donc voilà. Et puis, il y avait l'intrigue C, qui a que trois scènes, où je l'avais fait toute seule. Mais on était tous dans le même lieu à ce moment-là. Donc aussi, on pouvait se parler.
Chacune dans une pièce, quand même.
Voilà. Parce que j'ai un grand appart. Donc, moi, j'étais dans une pièce. Charlotte et Alice étaient dans la cuisine. Et...
Nous, on était dans la chambre.
Voilà. Pour que ça... Alors, vraiment, le truc complètement anecdotique. C'est hyper intéressant, c'est ce qu'on raconte.
Sur le cluedo de la mafia française.
Tout ça pour dire qu'elle a un énorme appart. Et qu'elle ne cherche pas d'emploi. Donc.
si. Je ne cherche pas d'appart. Je cherche de l'emploi. Pour payer l'appart. Et pour dire aussi qu'on pouvait aussi se parler entre nous, c'est-à-dire qu'il y en avait une qui bloquait sur un truc, elle venait me voir, ou on disait mais toi attends cette scène-là, est-ce qu'il y a machin dedans, parce que forcément il y a des personnages que tu utilises aussi dans les autres scènes, donc voilà. Et à la fin du ça, on a mis une journée pour écrire les scènes qu'on avait à écrire, parce qu'au final le sitcom c'est ce qu'on appelle du 8-5-3, donc c'est 8 scènes pour l'intrigue A, 5 scènes pour l'intrigue B, 3 scènes pour l'intrigue C environ. Sans être psychorigine, comme je suis un peu un narco-psychorigine, comme on dit.
Un narco-psychorigine.
Voilà, c'est un terme qui vient de m'être attribué.
Scénariste.
donc on a mis, genre, je sais pas, une journée pour écrire chacune ses dialogués, ou même un peu moins. J'ai un souvenir d'une après-midi, mais bon, je sais pas. Et à la fin de la journée, donc, qui était le vendredi, donc la fin de la semaine, on s'est dit, bon, on se fait une lecture à voix haute, de tout. Et on s'est fait la première lecture de la V1 qu'on avait, où il y avait encore beaucoup de choses à travailler. Mais on avait une base, en fait. On pouvait, quelque part, retravailler, pas forcément ensemble, à partir d'une... comment t'appelles ça ? Une Dropbox ?
Non, c'était un Google Doc.
Ça, je suis nulle pour ça, par contre.
Moi, je suis plus Dropbox, et Charlotte, elle est assez Google Doc, en fait.
Voilà, après, c'est...
Je me sens hyper brimée, là. Les compétences en Google Doc ne sont pas reconnues. Leur juste valeur.
Mais après, ce qui nous permettait ensuite de travailler en fonction aussi de notre disponibilité, parce que la semaine d'après, il y en avait une qui était hyper prise, mais c'était pas grave, parce que justement, on allait nous avancer pendant la semaine, chacune, on avait dit tel jour c'est toi, on met des propositions, des trucs et tout, et à la fin de la semaine, celle qui avait pas pu lire de la semaine, elle disait tout, elle disait ce qu'elle en pensait, ça permettait aussi d'avoir un regard un tout petit peu plus frais sur la V2, et ainsi de suite, on a fini par avoir une version dialoguée.
Vous l'avez eu en combien de temps, la version dialoguée, à peu près ?
Je dirais en 3 semaines.
Oui, je pense.
Oui, on avait été vraiment vite. Après, on aurait pu, évidemment, travailler plus.
On peut toujours.
Mais c'est vrai qu'on avait un épisode qui tenait la route, qui était structuré, les personnages étaient là et tout, effectivement, rapidement. Quoi. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué avec le sitcom, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on pourrait rajouter des blagues. Après, il ne faut toujours pas tirer non plus quand. Pas essayer d'en rajouter quand elles sont nulles. Donc, il y a cette espèce d'équilibre à trouver.
Et justement, vous avez refait une passe un petit peu à l'américaine, où genre là, on a 15 secondes sans vanne, il en faut une tout de suite. Ou non, au contraire, vous avez quand même laissé l'histoire se dérouler.
Moi, depuis le début, je savais qu'il fallait une vanne à peu près tous les 3 dialogues. Donc ça, c'était déjà, si tu veux, c'est quelque chose que moi j'avais en tête. Donc, je le gérais au fur et à mesure. Je suis même pas sûre que je vous l'ai dit, en fait.
On connaît toutes les sitcoms quand même.
Voilà, je suis pas sûre qu'on en ait parlé vraiment.
Assez naturellement. Enfin.
Oui, voilà, c'est ça. Assez naturellement. Ouais.
Oui, mais c'est vrai que j'ai été attentive dans les retravails sur ça, mais...
Ce qui était intéressant là, sur le pilote, c'était de coupler l'exigence comédie et l'exigence caractérisation. Ça, c'était vraiment intéressant, du coup, parce qu'il fallait faire des vannes caractérisantes, donc c'était pas mal. Enfin, ça nous a bien... C'était un peu un challenge, mais c'était chouette.
Quand vous l'avez écrit, vous avez pensé à possiblement la réalisation. Vous voyez quoi dans vos esprits ? C'était du multicam, justement, ou c'était,
C'était plus du multicam, comme on l'a écrit. Après, si aujourd'hui on devait retravailler, je réfléchirais peut-être à un moyen de retravailler en single cam. Parce que je pense que c'est plus moderne. Et puis là, on était parti sur cette base-là. Après, c'était une version pour le fonds d'innovation. On n'avait pas, pas d'exigence de chaîne derrière ou quoi que ce soit. Donc, on a un peu fait ce qu'on voulait. Par contre, après, c'est un dialogué qui a circulé en chaîne, et c'est celui-là où on a failli vendre. Malheureusement, on n'a pas vendu.
Et justement, l'histoire de cousine, après coup, ça a donné quoi au final ? Ça a donné beaucoup d'opportunités de travail derrière, ou ça a vraiment failli se faire ou...
De ce que nous dit notre productrice, qui est une super productrice, qui s'appelle Lily Lambert, chez Ciné TV, qui est une jeune productrice qui est qui marche vraiment bien et qui est très, très intéressante. Elle nous dit qu'en fait, elle l'a présentée à beaucoup de chaînes de la TNT. Mmh. Et d'abord, on l'a présentée à OCS, mais OCS a dit que c'était trop sitcom, ce n'était pas ce qu'ils avaient envie de faire. Donc ça, on comprend aussi, c'est des lignes éditoriales. Après, on le savait aussi en faisant du sitcom qu'on avait peu de possibilités. Genre, on n'est pas
naïve. Et en plus de ça, ils étaient sur cette thématique fille qui est très différente de la nôtre parce qu'ils avaient acheté Girls en fait.
Ouais.
D'accord.
On est aussi arrivé en même temps un peu que Girls. Or ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Mais voilà, on connaît tous la télé. Et...
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà.
Comme les femmes sont encore considérées comme une minorité, t'as une série sur les filles et puis ça y est.
Ça suffit. C'est
bon. Ouais, le quota, le quota.
C'est bon, ça règle le problème.
Attends, la moitié de la population n'a besoin que d'une série, voilà. Connue. Mais voilà, donc après, oui, elle est allée voir les chaînes du CAB. À un moment, il y a eu NT1, il y a eu HD1 aussi, à un moment, qui était intéressée. Je les confonds un peu, j'avoue, parce qu'elles s'appellent toutes pareilles. Mais
elle diffuse la même chose.
Elle diffuse un peu la même chose. Et au final, je ne sais même pas ce qu'ils ont acheté, mais a priori, on était finalistes pour les deux.
Ouais,
parce que j'ai compris.
On a su qu'ils avaient hésité entre deux projets, en fait, et qu'ils ont fini par prendre l'autre. On n'a pas eu le temps d'être trop déçus parce qu'on l'a su vraiment après coup, donc on avait un peu.
Je découvre.
Alice vient de l'apprendre. Elle croyait que c'était faux.
Non, 2 ans plus tard.
Et qu'on l'avait, évincé du projet. Oui, alors c'est vendu, mais. Non, mais voilà, donc nous, en parallèle, en plus, on avait développé un autre projet qui est Manhattan Club et qui avait été optionné par Making, alors qui pour le coup était très France Télévisions. Qu'on avait réfléchi France Télévisions.
D'accord.
Et que France Télévisions a trouvé trop branché. Voilà.
D'accord.
Non, je crois qu'ils ont dit vous êtes un peu en avance, on fera ça dans
2 ans. Et là, moi, je me suis dit, mais revenez tout de suite, parce que de toute façon, le temps que le contrat arrive.
Ça sera que dans 5 ans. Donc,
voilà, on sera prêts.
Non, mais je pense qu'il y avait. C'est l'excuse qu'ils ont donnée, mais je pense qu'il y avait d'autres choses, ils ont sûrement leur raison, mais. Mais on a été étonnés,
nous. Pour le coup, Manhattan Club, c'était du 52.
52 comédies, plutôt bouclées par épisode, en fait.
Comédie pure ou un peu de drama?
Non, c'était un peu dramédie, quand même. On avait moins une exigence de comédie constante que sur les sitcoms.
Bien sûr.
Après, on avait un peu réfléchi en se disant qu'il y avait la série Fais pas ci, fais pas ça, qui marchait très bien, mais qui n'était pas éternelle à cause de l'âge des ados à ce moment-là. Bon, finalement, ils ont réussi quand même à la prolonger pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est une série qu'on aime beaucoup. Mais on s'était dit, bon, France 2 va certainement chercher à un moment des 52 comédies pour prendre le relais ensuite, quoi, quand la série n'existera plus, ou tout simplement pour en développer d'autres, puisqu'il restait un de leurs fers de lance quand même de la chaîne. Après, je pense qu'on avait eu une réflexion pas mauvaise, puisqu'on n'a jamais optionné aussi vite un projet, autant à titre individuel qu'à titre collectif, quoi, c'est-à-dire que Making Prod, ils s'y sont intéressés vraiment très très vite, ils nous l'ont signé tout de suite, etc. Par contre, au niveau de la chaîne, voilà, mais c'est vrai que ça reste toujours le problème pour. Tous les scénaristes en ce moment, c'est qu'il y a très peu de chaînes en France, très peu de nouvelles cases de séries créées. Donc après, la concurrence est très très dure. En plus, en ce moment, autant il y a encore quelques années, il y avait un petit mépris de la part du cinéma et des réalisateurs de cinéma. En ce moment, grâce aux séries américaines, ils ont tous envie d'en faire. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent du cinéma qui proposent des séries. Et c'est d'ailleurs super, hein, parce que ça permet aussi d'augmenter le niveau. Mais ça fait que la concurrence est de plus en plus dure, parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas plus de chaînes en fait. Donc,
ouais, il y a un gros désir des auteurs de développer et d'écrire de la série parce qu'on est très libre dans ce format-là. Enfin, tout peut s'inventer, s'écrire, surtout en France où il y a beaucoup de choses à faire. Après, c'est sûr que la frustration, c'est qu'il y a très peu d'espace. Et en même temps, c'est pas un hasard aussi si nous, après avoir développé ces deux projets au sein de la Mafia Princesse, je pense qu'on est reparti. On a été rattrapé par des projets plus individuels parce qu'à un moment. Il y a le principe de réalité qui est si le projet se vend pas, bah, faut travailler à côté, faut vivre quoi. Donc c'est sûr qu'il y a quand même le désir de développer des séries, mais la difficulté de leur trouver.
Et puis il y a la difficulté aussi d'écrire des séries des idées en prospect en fait où ça vient de scénaristes mm-hmm. et finalement ces idées là sont malheureusement beaucoup moins vendues que les idées qui viennent de producteurs.
Ouais, ça c'est oui. sûr.
Et donc nous aussi on est rentré dans une autre démarche qui est quand les producteurs viennent nous voir avec une idée, pourquoi pas, carrément, et de moins travailler sur des projets qui viennent de nous, en fait.
D'accord.
Ce que moi, à titre individuel, je trouve vraiment dommage, parce que...
Ah oui, moi aussi.
Moi, j'ai des idées de série tous les jours, donc voilà. Mais, non, mais c'est vrai. Non, mais après, il faut les mettre. Ce qui est dur, c'est pas d'avoir les idées. Hein.
Déborah Asuna.
Non, mais ce qui est dur, c'est de les écrire. Hein. Après, avoir des idées, ça, c'est... Tout le monde a des idées, tous les scénaristes ont des idées. Mais je sais aussi que j'ai les trois quarts des idées que j'ai sont invendables. dans le paysage audiovisuel français, mais pas par un manque d'ambition, ou parce que je pense vraiment que la télé a changé de visage ces quelques dernières années, et d'envie, mais plus par un manque d'espace, en effet, un manque de possibilités, de formats différents. Moi, je suis très très fan des séries anglaises, qui sont des mini-séries de 5 épisodes ou 9, comme Dates, qui sont beaucoup beaucoup sur le personnage. Ça, c'est tout, il n'y a pas d'espace comme ça en France pour développer ça. Et on avait attendu ça un peu de la TNT, qui malheureusement... ne propose pas ça, n'a pas cette envie-là, et voilà, c'est même pas des séries qui coûtent si cher que ça, en fait, donc c'est pas c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de choix, quoi, de choix possibles, et c'est vrai, donc pour ça, c'est un peu, voilà, on a décidé un peu de fonctionner aussi différemment, pour ça, c'est une réflexion qu'on a eue ensemble sur est-ce qu'on redémarre, parce qu'on avait deux idées de séries qui nous branchaient bien, et si on redémarre, nous, sur une idée de Bible qui vient de nous, ou est-ce qu'on attend que des producteurs, si on commence à avoir quelques producteurs qui nous appellent, pour est-ce qu'on attend la bonne idée d'un producteur où on se dit, ah là, on va y aller, on a envie d'y aller, tout ça, et donc on est plus parti sur cette idée-là, a priori.
Et Anaïs, donc toi, cette année, tu as travaillé sur PEPS et sur 10%. Ça s'est passé comment? Il y avait des salles d'écriture là-dedans? Tu as travaillé sur des épisodes?
Alors, PEPS, oui, on a une réunion. Enfin, en saison 2, l'organisation était un petit peu différente. En gros, on a une réunion tous les lundis matins.
D'accord.
Mais ce n'est pas tant de brainstorming, etc. C'est vraiment chacun signe ou co-signe ses textes, parce qu'il y a beaucoup de binômes. Et c'est plus pour avoir les retours, pour savoir ce que la chaîne attend. Voilà, parce que TF1 suit les textes et... enfin, voilà, je pense que c'est j'apprends rien à personne. Très interventionniste, y compris sur des sketchs d'une page. Donc voilà, c'était plus ça en termes d'organisation. Alors après, 10%, il faut savoir que ça a été une saison, enfin c'est une première saison. Donc voilà, ça a été très long le développement. Moi, je suis arrivée vraiment sur la fin où il y avait le green light de France 2. Il y a un pilote dialogué qui avait été repris donc, par Fanny Herrero et Sabrina Karine. Et voilà, qui a été validé. Et bon, j'arrivais pour la coécriture d'un épisode avec Sabrina Karine. Donc il y a eu, je pense qu'il y a eu un côté un petit peu fastidieux, entre guillemets, parce que c'est une saison 1. Voilà, c'est-à-dire, il y avait des arches, il y avait des personnages, il y avait plein de choses, mais il y a eu aussi des retours en arrière, voilà, où les personnages ont été affinés au fur et à mesure par la directrice de collection et co-créatrice qui est Fanny Herrero. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu une gestation plus longue sur chaque épisode, mais parce que c'est une saison 1, et je pense qu'un peu toutes les premières séries sont un petit peu comme ça.
Et t'as écrit quel épisode dans la saison?
Alors j'ai coécrit du début l'épisode 4 avec Sabrina Karine. Après il y a Fanny Herrero qui est sur tous les épisodes.
Bien sûr.
Et l'épisode 5, je me suis retrouvée à remplacer une scénariste juste sur le dialogué en fait.
D'accord.
Sur l'épisode 5. Et il y en a 6 en tout. C'est 6 fois 52. Mais après c'était vraiment, enfin moi c'était ma première expérience en 52 avec une chaîne. Et enfin j'ai énormément appris et enfin, vraiment, la directrice de collection et co-créatrice, Fanny Herrero, très honnêtement, on a beaucoup galéré avec Sabrina sur notre épisode 4. Ouais. Parce qu'on était les deux scénaristes les plus novices.
D'accord.
Voilà. Et puis, on était celles qui démarraient vraiment de zéro. On nous avait demandé vraiment de démarrer de rien, enfin, voilà, de reproposer quelque chose pour cet épisode 4, même s'il y avait une partie feuilletonnante qui allait exister. Mais parce qu'il y a une intrigue bouclée à chaque épisode sur une ou plusieurs guests qui jouent leur propre rôle.
D'accord.
Donc voilà, et après il y a une partie.
Vous êtes parti de rien du tout.
Enfin,
vous
avez... de rien, il y avait
déjà un épisode 4 qui avait été écrit.
Oui, mais pas du tout validé.
Et vous l'avez lu ou pas?
Voilà, oui, oui.
Ouais,
mais après
d'accord.
On nous a dit, voilà, c'est pas vers ça qu'on veut aller, pour nous c'est pas l'ADN de la série, donc il fallait vraiment qu'on repropose complètement de A à Z une intrigue guest. Voilà.
D'accord.
Et on a mis très honnêtement beaucoup, beaucoup de temps à trouver le ton, ce qu'il voulait, etc., à comprendre, même nous. Enfin, surtout moi, parce que Sabrina, elle avait bossé sur le pilote, et enfin, moi, pas du tout. Et vraiment, que ce soit Fanny Herrero ou Harold Valentin, le coproducteur, enfin, ils nous ont vraiment donné notre chance. Il y a eu voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de retravail, et puis à un moment donné, voilà, c'est.
Ça s'est
c'est
passé
parti.
Sur combien de temps, cette période un peu d'apprentissage de la série?
Honnêtement, de longues semaines.
D'accord.
Plusieurs semaines. Et puis surtout, il y avait des délais au début. Enfin, voilà, la chaîne, je ne sais plus quand est-ce qu'ils voulaient tourner. Et ça a été décalé de plusieurs mois. Voilà.
D'accord.
Donc après, on a eu le temps aussi de chercher, de trouver, d'apprendre aussi. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et puis, d'aller au bout. Et puis, il y a eu un vrai... je pense, de la part des producteurs, un vrai respect des auteurs. C'est-à-dire, on a pu... je suis allée plein de fois sur le tournage. J'avais l'impression que c'était normal, mais plein de co-auteurs ou de camarades m'ont dit non.
Et je sais pas, j'ai déjà dit 3-4 fois et c'était hyper chouette. Alors à chaque fois, on sélectionnait, on nous envoyait le planning qu'on demandait à la prod pour essayer de voir des scènes qu'on avait écrites. Donc voilà, on a vu...
Qui est-ce qui a réalisé les épisodes?
Alors, il y a 3 réalisateurs. C'est Antoine Garceau, Lola Doyon, Cédric Clapiche.
D'accord.
Donc voilà, chacun fait 2 épisodes. Et là, il y a les 4 premiers qui sont montés. Et puis, on a 2 autres en cours de montage. Et je pense qu'elle
sera... T'as vu des images? T'as vu des rushs?
Non, les rushs, non. Enfin, j'avoue, j'ai pas trop osé demander. Puis, je préfère tout voir fini, quoi. Enfin, c'était...
Mais moi, je trouve que Fanny... Enfin, Anaïs nous a raconté au fur et à mesure. Et je trouve que Fanny Herrero a eu un super état d'esprit qui, je pense, aussi vient du collectif parce qu'elle fait partie du SAS, qui est de vraiment former des auteurs. Et ce qui fait que là, quand il y aura une deuxième saison, j'en suis sûre, pour la deuxième saison, elle a des auteurs qui sont formés, qu'elle a tenu, elle a pas viré au premier truc qui allait pas, ce qui en fait souvent arrive. Mm-hmm. Et je pense que ça met plus de temps à se mettre en place, mais après c'est gagnant sur l'industrialisation de la série, quoi, pour que ça revienne tous les ans et pour justement avoir des auteurs qui connaissent bien la série et aussi dire aux producteurs et aux chaînes, non mais notre équipe elle est là, elle sait ce qu'elle fait, voilà, on redémarre tout de suite. Mais je trouve que ça, enfin moi quand tu m'as raconté, je trouvais qu'elle avait vraiment une super super attitude d'apprentissage en fait, quoi, et de
voilà. Moi au début j'ai eu assez peur, j'avoue, je peux te dire, mais non, je me suis dit je vais me faire jarter, quoi, enfin vraiment, oui, bien sûr, j'arrive pas, enfin voilà, et puis voilà, et que ce soit enfin voilà, une vraie qualité qu'a le producteur Harold Valentin, c'était de faire confiance à Fanny Herrero, quoi. Voilà, donc il y a eu ce truc là, etc. Et puis voilà, de travailler, même si c'était sur d'autres épisodes, avec quelqu'un comme Fanny, Benjamin Dupas, Cécile Ducrot, enfin voilà, c'est des gens qui ont des grosses expériences, et notamment directeurs de collection. Enfin, on apprend beaucoup aussi en lisant voilà, les synopsis qu'ils ont pu faire, et voilà, en discutant des retours prod et tout. Enfin.
Mais 10%, ça devait être une bête assez bizarre, parce que étant donné que vous êtes censé avoir des guests dans les épisodes, c'est quoi, les guests sont déjà signés avant que vous lanciez dans l'écriture?
Alors non, ça a été très compliqué, et c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, vraiment,
oui,
et que Fanny, je pense, a eu un énorme boulot après, parce que des gens qui étaient initialement prévus ont dit non, ils avaient dit oui, un accord de principe, ils ont vu les scripts, ben en fait non. Et puis, donc, il y avait un vrai travail d'adaptation. Des fois, je pense qu'il a été assez simple. Et puis, des fois, il était très compliqué. C'est-à-dire, on repart vraiment complètement sur l'intrigue guest, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est, je pense, de Dominique Besnard. Il en parle pas mal parce que c'est vraiment son bébé. Enfin, voilà, c'était son projet qui porte depuis des années. Voilà, qui était agent. Maintenant, il est producteur. Et voilà, c'est quelqu'un qui a découvert des personnes comme Sophie Marceau, Béatrice Dalle, etc. Et voilà, il le dit souvent, enfin c'est pas un secret parce qu'il le dit souvent à la presse, voilà, en France les stars ont moins d'humour qu'aux États-Unis, quoi. Voilà. Voilà, d'autodérision. Et après il y en a qui jouent le jeu, par exemple Joey Starr sur son épisode, enfin voilà, c'est pas tendre avec son image ou ce qu'il raconte de lui, il a dit oui absolument tout de suite, il n'y a pas eu de...
Ah ouais.
Ouais. Et donc voilà, où j'ai lu là, il y a eu un article dans Télérama il n'y a pas très longtemps. Et François Berléand dit, qui est dans l'épisode 6, le dernier épisode, il dit, voilà, moi j'ai adoré jouer quelqu'un d'hyper désagréable, hyper méchant, et puis si le public pense que je suis comme ça, ça m'amuse beaucoup, parce que je sais que c'est pas vrai. Donc voilà, donc ça dépend, je pense, pour saison 2, peut-être qu'il y aura une organisation sûrement différente à ce niveau-là.
Et puis si ça marche, ça peut donner envie à des comédiens.
Bien sûr.
Oui, tout à fait.
Oui, parce qu'ils jouent sous leur propre nom. Ça, c'est
ouais, exactement. Oui, oui. Donc, ce qui est un peu inhabituel en France, quoi.
Alice, t'as fait des courts-métrages. Mm-hmm. N'aie pas peur. j'ai eu la chance d'en voir un. C'était... C'est ça.
D'accord, où ça?
Je suis invité à des choses. Je connais des gens.
D'accord.
Dans une salle de cinéma, c'était une projection... j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Tu peux parler un petit peu de l'expérience que tu as eue sur ce court-métrage-là, d'où ça venait déjà, de quelle envie ça venait?
Carrément. Bah alors, en fait, c'est né au Festival des scénaristes de Valence, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un lieu... Enfin, moi, je sais que la majorité des gens avec qui je travaille, je les ai rencontrés dans ce festival, et je vois beaucoup au Festival des scénaristes, que je trouve vraiment à chaque année très réussi et vraiment utile. Et en fait, il y a un concours qui s'appelle le marathon du court-métrage en 48 heures qui a lieu au festival. Il faut être sélectionné. Je crois que Déborah, tu l'as fait aussi.
Oui, bah, je l'ai fait l'année où
Anaïs, tu l'as fait la même
année où je vous ai rencontré.
Ouais, voilà. J'ai fait la même année qu'Anaïs.
D'accord.
Et du coup, voilà, on est 25, on est enfermés dans une salle, enfin enfermés. On est dans une grande salle, on nous balance un sujet le jour de notre arrivée et on a 48 heures pour écrire un court-métrage de 10 pages. Voilà, et le sujet, c'est Marion Vernot qui était la présidente du jury. Et le sujet m'a tout de suite beaucoup plu parce que c'était très visuel. Elle posait un décor, un centre commercial, un écheveau de national. Il y avait un truc très frère Cohen. Non pas, j'ai pas du tout fait un film frère Cohen, mais voilà, il y avait un truc qui me... Il y avait un truc très, je sais pas, très, très visuel, très chouette. Et du coup, voilà, j'ai gagné le Grand Prix du Marathon. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver un producteur, réécrire, parce qu'évidemment, on ne fait pas un film... voilà. Ce serait génial,
hein, j'adore réécrire
voilà, tourner des trucs que j'ai écrits en 48 heures, mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, je l'ai beaucoup, beaucoup retravaillé.
D'accord.
C'est devenu un 20 minutes, un 20 pages. Voilà, et j'ai un super producteur, Marc-Benoît Créancier, qui dirige la boîte de prod Easy Tiger, qui a donc produit le film. On a mis un peu de temps à trouver des financements. Comme c'était mon premier court produit, bah, ça prend toujours du temps.
Oui, puis vu le lieu, ça devait être quand même relativement cher, quand même.
Ouais, parce que ça se passe dans un grand magasin de meubles, et donc forcément, il fallait le décor.
Ouais.
Était très ambitieux. Après, j'ai eu une chef déco vraiment très douée qui a su, avec peu de choses, faire un truc vraiment chouette. On a tourné dans un petit studio en Poitou-Charentes. On a eu la chance d'avoir ce studio. Ils ont créé ce studio exprès pour une grosse série. Qui finalement s'est annulé au dernier moment. Donc les mecs se sont retrouvés avec un studio vide où il n'y avait pas de tournage pendant très longtemps. Et du coup, on a eu de la chance, on arrivait à un moment où ils avaient juste envie de pouvoir faire un film dans leur studio. Wow. Maintenant, depuis, il y a eu plein de tournages, donc on n'aurait peut-être pas pu le faire et on n'aurait pas eu les prix
C'était
qu'on a eu.
C'était vraiment le bon moment, quand même.
Voilà, on est arrivé, on a eu un timing génial. Fin...
Mais après, tu as eu des aides pour faire
évidemment.
Le film.
Oui, ouais, j'ai eu des financements quand même, la région, et même des financements après, pendant la post-prod. Donc j'ai fini par avoir un budget vraiment, vraiment chouette, quoi. Mais même s'il y a des subventions qui sont tombées un peu après le tournage. Donc voilà. Et en fait, on a tourné en studio et on a trouvé tout un système pour, voilà, pour faire plusieurs étages en un. Je sais pas comment. C'est un peu compliqué peut-être
oui.
De visualiser, mais comme il y avait. C'est un magasin, il y a des box. Enfin, le personnage principal vit dans un box comme chez Ikea, quoi, dans un salon cottage. Et il a plein de voisins qui vivent dans des box. Et il fallait. Il y a plusieurs étages. Et ben, en fait, on a trouvé un système où on retournait les box. Et il y avait. De l'autre côté, c'était peint, c'était préparé pour devenir un autre étage. Donc voilà, on avait inventé tout un système. J'ai pas inventé, mais la chef déco a eu cette très belle idée. Puis il y a eu un peu d'effets spéciaux, évidemment, quand même, pour donner un peu d'ampleur au magasin. Et on a tourné quelques scènes de rayonnage dans des Leroy Merlin, des Bricorama, ce genre de... Je sais pas si je peux citer des marques. Mais...
T'en cites plusieurs, vas-y. 10.
Nike.
Tu
Adidas.
Marques de...
de pas de soucis sur un malentendu, il y en a un qui va nous donner de l'argent. Donc,
Donc voilà.
Alors, très chouette court-métrage,
merci.
Vraiment beaucoup aimé. Donc, maintenant, la vie du court-métrage, c'est quoi ? Va y avoir des festivals des,
Alors, ce court-métrage-là a été diffusé sur France 3, il y a maintenant un an et demi.
D'accord.
Et c'est chouette, il a démarré assez lentement. Il a été à Clermont-Ferrand, bon, dans un programme spécial, pas en compétition. Et ça a été assez lent, et là, il continue de faire des festivals. Il sera à La Ciotat en mai, au festival du premier film francophone de La Ciotat, et il continue de voyager. C'est chouette parce qu'il y a un moment quand ça décolle, où finalement, on n'a plus besoin de faire grand-chose. Voilà, le film a sa propre vie, et on n'a plus besoin de... Donc voilà. Donc même si ça a été lent, en fait, il a voyagé.
T'es comédienne à la base, tu es devenue scénariste, tu réalises aussi. Comédienne, c'est.
Elle sait tout faire.
Non. Comédienne, c'est complètement terminé.
Gézère et couteau suisse.
Non, comédienne, c'est complètement derrière moi. Je pense que c'était un délire narcissique d'adolescente. Non, en fait, en réalité, en plus, je voulais réaliser dès l'âge de 9 ans, je voulais écrire et réaliser. Et puis, je sais pas, à l'adolescent, j'ai eu ce trip. J'adorais aller au cinéma. Je rêvais en voyant les Meryl Streep. Je sais pas, j'ai eu envie de jouer. J'ai aucun regret.
Je trouve que comédienne, c'est un bon moyen. Moi, je connais pas mal de comédiens qui écrivent et je trouve que c'est un super moyen pour savoir comment se passe un tournage, pour
aller
dans les réalités d'écriture aussi. Voilà. Et puis souvent, je trouve que les comédiens sont très très bons en dialogue.
Mmh. Bah là, en ce moment, je bosse avec. Je viens de tout juste. Je pense que je peux en parler. J'ai commencé à coécrire avec Denis Ménochet, qui est comédien.
Ouais.
Et il a des tonnes d'idées. Enfin, il prend toutes les voix des personnages. Il est impressionnant de créativité. C'est vraiment un plaisir, quoi. Et effectivement, chez le comédien, il y a potentiellement une grande compréhension des personnages. Ils savent tout de suite quand c'est juste ou pas, parce qu'à force de jouer, il y a une espèce d'instinct très fort, quoi.
J'avais pareil avec Vincent Primo sur In America, qui peut-être avait besoin un peu de cadrage sur la structure
Bien
et
sûr.
Tout, mais qui balance des idées impressionnantes à la minute et qui est un très, très, très bon dialoguiste. Donc ça, c'est...
Et puis il y a la direction d'acteur aussi, après, derrière.
Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a des comédiens qui se passent à la réal et les films peuvent être assez réussis parce que souvent le jeu est impeccable, quoi. Ils savent...
Oui, vous partagez le même langage, en fait. Donc,
après, moi, je me sens vraiment plus... c'est comme...
C'est loin,
maintenant. C'est comme si j'avais pas fait de vélo pendant depuis... alors, peut-être... Voilà, même quand j'écris, je sens pas ce truc-là. J'ai pas l'impression de...
D'accord.
Je joue pas mes dialogues, je joue pas les scènes, donc... J'ai pas l'impression que...
C'est pas une expérience qui t'a...
Si, c'était super enrichissant parce qu'encore une fois, j'étais sur des tournages, j'ai rencontré des gens, c'était vraiment chouette. Et... Mais j'ai pas l'impression que, en ce moment en tout cas, quand j'écris, je sens plus cette influence-là.
D'accord.
Voilà.
Ouais, mais nous on s'en rend compte quand même parce que quand on lit des dialogues à voix haute, on voit tout de suite la différence entre Alice qui a quand même un peu un petit background de comédienne et nous, quoi.
Tu fais toujours des castings ou plus du tout?
Non,
c'est
plus
vraiment
du tout.
Fini.
Plus du tout. Et puis je trouve que j'ai un vrai respect pour le métier de comédien qui demande beaucoup de travail, de beaucoup
D'accord.
s'entraîner, même quand on tourne pas, de faire des cours, des ateliers, des voilà. Et j'ai un vrai respect pour ce métier. Et comme j'ai plus du tout le temps et que je me consacre entièrement à l'écriture et à la réalisation, je peux pas faire ça en dilettante.
Bien sûr.
Et même je me sens plus vraiment à l'aise, quoi. C'est plus mon monde, quoi.
D'accord. On va revenir un tout petit peu en arrière. À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que ce que vous regardiez à la télévision, au cinéma, était écrit par quelqu'un? À partir de quand vous avez pris conscience de l'existence du scénariste?
Moi, je crois toujours, mais c'est parce que j'ai un parrain qui était monteur et qui écrivait des documentaires.
D'accord.
Donc j'étais extrêmement proche et donc j'ai toujours entendu parler du métier de scénariste. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours voulu être scénariste. Au début, je voulais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai plus des envies de réalisation, mais
d'accord.
Au début, je voulais être scénariste. Et c'est marrant parce que la première fois que j'ai parlé avec Benjamin Dupas, il m'a dit « Mais attends, mais c'est pas possible, tu connaissais le métier de scénariste à 15 ans, à 14 ans ?» Il dit « Tout le monde voulait être réalisateur, bah, scénariste ?» Je dis « Bah non, moi, c'était écrire, quoi, qui m'intéressait. C'était pas tourner, c'était pas filmer. C'était vraiment les voix, quoi, les voix des personnages, quoi. » Donc moi, pour ça, mais c'est parce que j'étais dans un milieu qui connaissait mieux ce métier aussi.
Dorothée ?
Moi, c'était assez tôt aussi. Après, la conviction de vouloir écrire, elle est venue plus tard. Enfin, le désir et du coup, la conviction derrière. Mais c'était en fait... Moi, je me souviens, j'étais en cinquième et on avait un devoir d'imagination à faire, comme on fait souvent. Et on avait le choix de faire une forme libre. Donc, pièce de théâtre ou cours scénario, etc. Et ben, moi, j'ai choisi le scénario. Et du coup, j'ai travaillé ça. Et j'ai regardé déjà beaucoup, beaucoup de films. Mmh. J'avais des parents assez permissifs. Et je pouvais, du coup, regarder le film du soir, à peu près tous les soirs. Et voilà, j'étais déjà très, je dirais, peut-être pas cinéphile. Parce que quand on est en cinquième, c'est pas vraiment de la cinéphilie. Mais il y avait cette cinéphagie, en tout cas, où vraiment, j'enchaînais. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai écrit. Et c'est là que je me suis dit, oui, bah, c'est un métier... Et après, voilà, j'ai suivi les parcours d'autres scénaristes. Mais sachant que moi, j'ai quand même le désir de réaliser. L'écriture, pour moi, n'a de valeur que combinée, en tout cas à mon échelle, hein, combinée à l'exercice de la réalisation. Parce qu'en documentaire, voilà,
oui,
tout est très lié. Et c'est vrai qu'en fiction, je trouve très intéressant d'être dans cette étape où on ne fait qu'écrire. Mais je sens déjà que maintenant que j'ai commencé à écrire un peu de fiction, un peu plus que... Il y a quelques années, voilà, je sens déjà que j'ai envie de réaliser parce que pour moi, c'est aller au bout du processus. Voilà.
Ben alors, moi, j'écrivais des pièces de théâtre quand j'étais petite, sans avoir du tout connecté ça à un truc de métier de quand je serai grande ou quoi que ce soit. Après, il y a eu toute une phase où j'étais très cinéphile, je lisais beaucoup, etc. Mais vraiment, en tant que consommatrice, entre guillemets, quoi, je pensais pas forcément aux gens qui avaient produit les œuvres que je regardais. Et en fait, je crois que c'est vraiment en devenant fan de Friends que j'ai commencé à me dire... déjà, je me suis dit, si un jour j'arrive à écrire un truc qui arrive à la cheville de ça, je meurs heureuse, quoi. Sauf qu'à l'époque, j'écrivais pas du tout, donc bon, ça me paraissait un truc un peu nébuleux. Et j'avais dû voir, je pense, sur Canal Jimmy, un reportage sur l'équipe qui faisait ça. Et là, je me suis dit, non, mais
ouais,
ces gens, ils ont la vie de rêve, quoi. Bon, après, je pense que c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup, voilà. Mais c'est vrai que là, les voir tous autour d'une table en train d'essayer d'inventer ça, et puis surtout ce programme dont j'étais vraiment extrêmement fan.
Puis sur le tournage aussi, réécrire les séquences, trouver des blagues plus. C'est assez, je l'avais vu aussi, donc c'est assez
ouais, voilà, du coup, c'était assez marquant, ouais, ce truc.
Bien sûr.
Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, moi, je m'autorisais pas du tout ça, donc je m'étais juste dit, ces gens ont une vie de rêve sans aller jusqu'au bout de, donc il faut que j'essaye de.
D'accord.
J'ai quand même mis 10 ans entre cette réflexion et le fait de mettre vraiment à écrire de manière professionnelle, en fait.
D'accord.
Quoi.
Et tes pièces de théâtre, tu faisais jouer des gens dedans?
Mes cousins, en l'occurrence.
Cousins,
ouais. J'étais la plus grande, donc je pouvais les martyriser en leur filant des rôles pourris.
Exactement comme toi, Charlotte.
C'est vrai?
Ouais, je leur imposais de faire des sketchs à Noël et tout.
Ah,
je les engueulais s'ils n'avaient pas pris leur texte.
Et je crois qu'il en reste des vidéos, mais je suis contente de ne pas les avoir en ma possession.
Moi aussi, je ne sais pas, voilà, pas qui les a, je ne vais pas les demander. Non.
Tu vois une Charlotte d'un mètre qui fait « Tu fais ça maintenant ! Tu dis les choses comme ça !»
La mini Charlotte,
c'est hyper autorisée. Tyran, en fait.
Non, non, ouais, non,
ouais, avec un béret posé de côté pour faire artiste.
Non, non, beaucoup plus diplomate quand même.
Non, mon petit cousin est traumatisé, bon, il est adulte maintenant, il m'a dit « Je me rappelle, je m'avais fait jouer un œuf. » Et il était devant les parents, il avait joué un œuf. Je sais pas pourquoi.
C'était déjà conceptuel, hein, dis donc.
C'était très conceptuel.
Moi, j'avais fait exploser mon frère. Je pense que je souhaitais sa disparition pour avoir mes parents pour moi toute seule. Ou un truc.
Comment tu figures ça? Comment tu mets en scène une explosion de...
Écoute, je crois qu'il y avait une histoire de pétard. Hein. Je pense qu'il y avait, un haut niveau d'effets spéciaux.
La terreur des parents en ce moment.
Tu m'étonnes.
Je ne peux pas imaginer. Et toi, Alice?
J'ai découvert le métier de scénariste en commençant à écrire. Enfin, je savais que ça existait, mais j'y pensais pas trop. Enfin, je l'avais pas. Enfin, je voulais surtout réaliser. Et je savais que ça fallait écrire avant de réaliser. Enfin, dans ma tête, il fallait d'abord écrire l'histoire. Donc, mais en faisant, j'ai découvert ce monde-là qui me plaît beaucoup.
Non, et justement, moi, c'est bien. Non, mais je prends le micro parce que Anaïs a une chouquette dans la bouche, donc je veux pas du tout lui voler la vedette. Non, mais moi, toujours au lycée, il y a un film que j'avais adoré, c'était Au revoir les enfants.
Ah, moi aussi.
C'est vraiment, ouais, pour moi, ça fait partie de ces films un peu fondateurs, avec aussi un film télé, un unitaire, qui s'appelle La fracture du myocarde et qui sera diffusé là. Il y a des pubs en bas dans le hall. Un film magnifique. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des films qui m'ont vachement marqué. Et j'étais en librairie et j'ai vu qu'il était édité en folio. Et en fait, je l'ai acheté. Le scénario.
Le scénario, d'accord, pas une novélisation.
Au revoir les enfants.
Le scénario, d'accord.
Voilà, et je l'ai acheté, et en fait j'étais assez frustrée, parce qu'en fait c'était une transcription du film.
Ah, d'accord.
Et, voilà, et en fait je trouve que souvent dans les publications, je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais moi j'étais vachement avide de lire.
Oui, tout est lissé, c'est souvent le cas. Tout est lissé, et en fait tu peux pas comparer en fait la version originale.
Il y a un site internet qui a pris contact avec la Guilde, alors je sais pas où ça en est, mais qui justement... va voir directement les auteurs pour avoir les scénarios avant tournage.
Ça, c'est super intéressant.
Et pour les mettre en ligne, ouais. Voilà, je sais pas trop où ça en est cette histoire, mais en tout cas c'était l'idée parce qu'en effet, en tout cas en tant que scénariste, c'est pas très utile d'avoir la version tournage.
Oui,
ça n'a aucun intérêt.
Non.
Ce qui a un intérêt, c'est la version avant tournage. À la FEMIS, c'est hyper intéressant pendant l'atelier scénario. On reçoit des réalisateurs, des scénaristes, et on lit la version avant tournage et on voit le film et après on en discute avec eux. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Ouais,
les choix que tu fais. Quoi.
Puis quand j'ai eu envie d'apprendre, d'en savoir plus sur l'écriture de films, ça m'a frustrée parce que j'avais... Bon, j'ai grandi en Corrèze, hein, et il y avait une source...
Ne t'excuses pas, Dodo.
Voilà, ouais, les bibliothèques, les médiathèques...
On en a déjà parlé ensemble.
C'était assez pauvre dans tous ces domaines-là, mais j'étais assez frustrée parce que voilà, j'avais l'impression de ne pas avoir accès à cette ressource-là. Et c'est bien si... Ça va bientôt exister.
J'espère. Ouais. Ouais. Mais juste pour l'anecdote, pour Louis Malle, je trouve que c'est une bonne histoire de scénario. C'est que en fait, Louis Malle, on a toujours cru que c'était son histoire à lui. Enfin, souvent, on dit que c'est son histoire.
C'est vrai.
Et en fait, c'était un des enfants de l'école qui a vu ses enfants juifs se faire prendre à la fin, mais il n'a jamais été ami avec eux. Et en fait, ça l'a toute sa vie. Ça l'a travaillé. Et toute sa vie, en gros, il s'est dit. Voilà quoi, genre c'est une image qui lui est restée gravée tout en les connaissant pas si bien. Et en fait, il a réinventé le point de vue en créant ce personnage d'ami comme si c'était lui quoi. Et parce qu'il y a une voix off et tout dans le film.
Je pense que c'est Louis Malle quand même.
Il était juste pas ami, et en fait, il a eu besoin de faire ce film
pour exorciser
le traumatisme, mais d'un autre point de vue, alors que il avait vu la scène mais il les connaissait pas vraiment quoi. Je trouve ça beau, tu vois, comment viennent les histoires.
Et c'est marrant quand tu dis ça, parce que pour moi, écrire, c'est ça. On dit toujours que c'est sublimer la réalité, mais c'est la réarranger.
C'est réparer quelque chose aussi.
Exactement.
Ouais. C'est vraiment on a une image entêtante et il faut l'expulser ou réparer une situation en la réinventant. Et voilà, Anaïs.
Comment était la chouquette?
Très bien.
Fondante.
Donc c'était comment je suis venue à l'écriture, c'est
ça? Comment t'as su que les choses que tu regardais étaient écrites par quelqu'un?
Honnêtement, je pense que c'était ado, parce qu'après j'ai toujours un peu écrit, c'était un peu des plagiats du Club des 5, mais avec moi et mes potes. Donc j'ai écrit pendant longtemps, et puis j'avais choisi l'option cinéma au lycée. Et puis après, j'étais assez téléphage, ado, la trilogie du samedi soir, une soirée de polar, tout ça. Je regardais toujours avec attention les génériques du Caméléon, de Buffy et compagnie. Et puis la première fois, quand on était en option cinéma, la prof nous demande, je sais plus, elle nous avait donné une situation ou je sais pas quoi, d'écrire un scénario sans nous dire comment faire. Et puis moi, naturellement, voilà, j'avais, enfin voilà, elle avait lu le truc, elle avait dit, bah, c'est ça, c'est exactement ça, la manière dont tu décris. Alors tout le monde avait écrit un peu la manière d'un roman, quoi.
D'accord.
Donc voilà, et puis je me suis dit, mais c'est génial, il y a des gens qui font que, voilà, des histoires qui après deviennent des séries ou des films. Et puis, à ce moment-là, j'avais entendu parler de la Fémis et je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire, quoi. Voilà.
Et en fait, ça m'a toujours intriguée, toi, Anaïs. Toi, t'as fait d'autres études avant de faire la Fémis. T'as fait des études de...
Ouais, j'ai de cinéma. Voilà, donc j'ai 2 bacs plus 5 cinéma. En cinéma, ouais, ce qui est extrêmement utile dans la vie de tous les jours.
C'est une brute.
Je suis un peu... Voilà, c'est comme...
Bah, dans ta vie, plus que dans la vie de la boulangère, en tout cas.
C'est une brute, Anaïs.
Non, mais c'est un peu comme en atelier, tu vois. Je suis un peu lente. J'ai un petit peu de temps à réagir. Et
mais quand tu dis quelque chose, fort.
Mais j'osais pas... Enfin, le concours de la famille, c'est à partir de bac plus 2. J'avais pas du tout la maturité pour le passer à ce moment-là. Donc je l'ai passé à bac plus 4, je l'ai pas eu. J'ai retenté à bac plus 5 et je l'ai eu, quoi. Voilà. Ouais, okay. À chaque fois, c'était vraiment, je voulais être scénariste. Il n'y avait pas de plan B.
On va terminer par un petit tour sur ce que vous regardez en ce moment, ce qui vous motive à écrire, ce qui vous donne envie. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous suivez une série? Est-ce que vous avez vu un film, lu un livre qui vous a...
Moi, j'avoue que Les Combattants, cette année, a été une vraie révélation sur ce que pouvait être le cinéma français et... ce mélange de genres, de types d'histoires, la comédie romantique, il y a un côté science-fiction, il y a un côté... Voilà, moi, c'est quelque chose que... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de films cette année qui sont sortis, Mastro, Hippocrate, où voilà, il y a ce mélange-là et ça m'a... J'étais déjà dans l'idée d'écrire mon film puisque j'étais déjà à l'atelier scénario, mais ça m'a rassurée dans mes choix et dans quel type de cinéma j'avais envie de faire. C'est un cinéma d'un peu d'entre-deux qui prend de plus en plus de place. Donc ça, c'est pour le cinéma. Et puis pour moi, en télé, moi, je suis une grosse sériephile. Donc je regarde un peu trop de séries, même, je crois. Donc là, je suis triste parce qu'il y a l'épisode qui vient de finir. Je vais devoir attendre un an avant les nouveaux épisodes. Et il y a qu'est-ce que je regarde, Looking,
quel épisode.
Ah d'accord. Oui, épisode, c'est vrai. Je comprends, c'est pas évident comme phrase.
Il y en a que 9 cette année.
Ouais. Je suis dégoûtée.
J'ai regardé hier soir sans savoir que c'était le dernier. Tu viens de me faire mon truc là.
Ça se voit que c'est le dernier.
Bah justement, je me suis dit c'est bizarre.
Pas de spoil.
Pas de spoil. Pas de spoil.
Après, moi j'aime beaucoup Looking. Moi j'aime beaucoup en fait les séries de 20, 25 minutes, enfin 30 minutes parce que quand elles sont sur Showtime ou HBO. Et qu'est-ce que je. Voilà, à peu près là où j'en suis. Il y a Community qui recommence, au moins.
Anaïs?
Oui, je regarde plein de séries, pas autant que Débo, qui a moins besoin de sommeil que moi, je pense. Je m'impressionne toujours de ce qu'elle regarde. Donc voilà, non, après les séries que je regarde américaines, moi j'aime bien les sitcoms Big Bang Theory. Là, je viens de terminer Newsroom, mais après j'ai plein de séries en retard, en cours, je sais pas, Master of Sex, The Americans, House of Cards. Hein. Mais après, dernièrement, je suis quelqu'un d'assez optimiste et je trouve que ça bouge vraiment au niveau série française. Alors, j'ai vu que le pilote pour l'instant. Il faut que je m'achète la suite de Chef.
D'accord.
Enfin, je sais pas, moi, après, c'est assez macam en termes de ce que ça raconte. Il y a plein de secrets, il y a plein de mystères, il y a plein de... J'aime beaucoup la réalisation. Et Les Témoins, qui a fait un très bon score sur France 2. Enfin, j'avais vu déjà les deux premiers en avant-première. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite et puis 10% bientôt à la rentrée.
Moi, j'ai trop hâte de 10%. J'avoue.
Enfin, je sais pas, il y a un truc en tout cas que je trouve assez enthousiasmant parce que Les Témoins, c'est quand même c'est ultra anxiogène, c'est dark, c'est noir, c'est sombre, ça peut être déprimant et ça a marché et je sais pas. Voilà, je suis quelqu'un d'optimiste donc je me dis ça bouge, ça continue à bouger quoi.
Ouais, moi je rejoins assez Anaïs sur les séries françaises. Moi, j'en ai toujours beaucoup regardé et je continue d'en regarder. Et moi, j'ai beaucoup suivi Un village français, que je trouve très bien, enfin vraiment abouti et réussi à tous les niveaux. Et en plus, on est en pleine socio-histoire, donc je trouve que c'est hyper audacieux, surtout pour France 3. Et voilà, ça pour moi, c'est une grosse lueur d'espoir, en tout cas, de me dire que voilà, demain, il y aura une série qui remplacera Le village français et qui sera peut-être plus audacieuse encore, et ils ont ouvert la voie, en tout cas, pour quelque chose, ça c'est sûr. Et moi, j'ai beaucoup suivi Arte aussi ces derniers temps, oui. Et j'ai vu Ainsi soit-il, que je trouve qui s'est beaucoup bonifié en fait sur la deuxième saison. Et voilà, je suis très très touchée en fait par ces personnages. Je trouve que c'est sensible et pertinent. Après, voilà, il y a certains passages qui sont assez encore un peu bancals, mais voilà, je trouve que c'est très attachant, en fait. Et je dirais la même chose de Paris, que j'ai vu, qui là oui. est bouclé sur une seule saison. Hein, je crois que c'est 6 épisodes ou 8, je ne me rappelle plus. Mais où je trouvais, voilà, il y avait une tentative de quelque chose, et je trouve que c'est un petit peu naïf, mais c'est très beau. Et j'ai passé à chaque fois des super moments. Et après, sinon, en créa française, je suis assez fan de Kaboul Kitchen.
D'accord.
Plus de la saison 1 que de la saison 2. Mais j'ai hâte de voir la suite. Et voilà, puis après, moi je regarde beaucoup de docs, notamment un documentaire que je recommande à tout le monde qui est encore en salle, qui s'appelle Iranien, de Mehran Tamadoun, où un Iranien athée reçoit chez lui des mollahs pour discuter de la possibilité du vivre ensemble. C'est une espèce de love story totalement improbable entre un Iranien athée qui vit en France, qui est donc le réalisateur. Et voilà, et c'est délicieux, c'est génial, c'est drôle, c'est flippant, on voit pas le temps passer, et voilà, ça je vous le recommande, un dispositif assez original, voilà.
Ok.
Alors, moi, le format que je préfère, c'est la dramédie 26 minutes.
D'accord.
Je suis d'ailleurs un peu désespérée de voir que la note d'intention que j'avais écrite il y a 5 ans à ce sujet, sur mon tout premier projet, est encore valable, hein, sur... l'évolution des chaînes françaises là-dessus, c'est-à-dire que... Et c'est marrant parce qu'ils ont lancé des projets sur ce format qui ont pourtant vraiment fait leur preuve. Moi, je trouve que Hard et Kaboul Kitchen, qui sont un peu les deux tentatives d'un Dramedy 26, sont vraiment des bons projets où ça marche et au niveau de l'émotion et au niveau de la comédie. Mais j'ai l'impression qu'en termes de programmation, c'est toujours très compliqué là de trouver les cases. Je pense que tout le monde a envie d'y aller, mais que pour plein de raisons, les cases ne s'ouvrent pas encore complètement.
Oui, c'est pas évident à diffuser, vu qu'on a tendance à diffuser par bloc, ça dessert complètement le 26.
Alors voilà, par exemple, Nos Enfants Chéris, c'était diffusé 4x4 à l'époque, et je pense que voilà, je pense que les gens réfléchissent beaucoup en termes de prime time, mais pas assez peut-être. Après, je leur jette pas la pierre, hein, parce que je sais qu'il y a eu des tentatives de fait, notamment sur Canal, où ils essayaient de faire comme aux États-Unis, de diffuser 2x2, et ça n'avait pas marché, donc. Je veux pas leur dire comment faire leur métier ou quoi, mais c'est juste en tant que spectatrice et scénariste, j'ai un peu une frustration là-dessus parce que je trouve que il y a une longueur d'avance qui continue à se creuser du côté des États-Unis et même maintenant des autres pays. Et là, je viens notamment de finir Transparent, que je trouve assez excellente.
Génial. J'ai hâte de voir ça, ouais.
Et en même temps, ce qui me frustre un peu, moi, quand je vois une série comme ça, c'est que c'est super bien, ils raflent tous les prix et c'est normal. Et après, je pense que si en France, on proposait quelque chose sur ce ton-là, un peu flottant, avec... j'ai l'impression qu'en France, on est encore à l'époque du high concept, comme étaient les Américains il y a 10 ans, et qu'on cherche maintenant à faire les équivalents 24 heures chrono ou les équivalents Dexter, alors que si on voulait rattraper le retard, il faudrait dès maintenant se poser la question plus presque de la chronique, en fait, quoi.
Bah, on est
qui, pour l'instant, reste un gros mot dans les chaînes françaises.
Bah, on fait pas trop de séries de personnages, en fait. Ouais. On fait beaucoup de séries de concepts qui peuvent être très intéressants. Et Un Village Français est devenu une série de personnages, par exemple.
Ah oui, tout à fait, ouais.
C'est-à-dire qu'à la base, c'était un concept fort, mais... Voilà. Après, je pense qu'en fait, on fait pas confiance sur la première saison de cette personnage. Après, de toute façon, le propre de la série, c'est de devenir une série de personnages pour moi. Donc,
bien sûr.
Quoi qu'il arrive, le concept est toujours désuet au bout de la deuxième saison.
C'est la seule solution pour faire avancer.
House of Cards aussi, c'est totalement en train de devenir une série de personnages.
Bien sûr.
Et
Orange is the New Black aussi. Enfin, au début, c'est un concept. Maintenant, c'est que de la série de personnages. Et même pratiquement plus le personnage principal. Donc vraiment, moi, je trouve qu'en fait, on devrait faire confiance dès le début à des séries de personnages. Et c'est vrai que ça s'y prête beaucoup sur 20-30 minutes. Que moi aussi j'adore comme Charlotte, enfin, on s'est beaucoup retrouvé là-dessus, mais c'est vrai qu'on a peur, de manquer de concept. Quoi.
C'est compliqué à pitcher, quoi, de dire c'est une série d'ensemble, ça, ouais, temps, dans cet univers-là, il faut...
Transparente, en même temps c'est fort en concept, c'est quand même un père qui change, un père,
bien sûr,
un père de famille de 60
permet ça,
ans, hein. qui change de sexe.
Mais c'est juste cette petite phrase
qui
derrière...
C'est pas traité comme un concept, c'est traité comme des personnages.
Oui, mais on a aussi l'impression que le diffuseur, en l'occurrence Amazon, tire un peu dans tous les sens pour essayer de draguer un public qui n'est pas forcément dragué ailleurs. Donc, est-ce que Transparent aurait été même sur HBO?
Je suis pas
persuadée.
Ouais. C'est de la télé de niche, quoi. Mais
tout à fait, ouais.
Enfin, sur HBO, il y a quand même Girls and Looking qui sont déjà des chroniques, quasiment.
Bien sûr,
quoi,
ouais, bien sûr. Ouais. Ouais.
Et Togetherness aussi.
Togetherness, c'est pas mal.
Oui, qui se rapproche presque plus au niveau du ton de Transparent, d'ailleurs, je trouve.
Ouais, c'est ouais. Ouais, ça raconte encore moins de choses que Looking et Girls.
C'est pas faux.
Alice, qu'est-ce que...
Je regarde des séries, mais un peu au compte-gouttes. Donc, j'essaie de me tenir au courant de tout ce qui existe, mais j'en vois beaucoup moins que mes camarades. J'ai beaucoup aimé de Nick, mais sachant que je regarde pas beaucoup de séries, voilà, j'ai regardé ça il y a pas très longtemps et j'ai trouvé que la mise en scène était sublime et j'ai adoré voir la médecine. Enfin, tout ce qui concerne la médecine me passionne.
D'accord.
Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Les combattants aussi, ça m'a vraiment marqué. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Je suis sortie de là hyper enthousiaste. J'ai adoré le fait qu'on puisse rire. Enfin, il y a de la comédie en même temps. Je voyais enfin. C'est le genre de cinéma que j'ai envie de voir plus souvent en France. Et sinon, dans les films que j'ai envie de voir, Snow Therapy. On m'a dit que c'était vachement bien. Et
oui,
le pitch,
d'accord.
Je
l'ai vu, c'est bien, mais c'est un peu lent, mais c'est
ouais,
bien.
Mais le pitch, c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc j'ai très.
Dorothée n'est pas d'accord.
Ah non, j'ai pas du tout aimé.
Bah moi, en fait, à partir du moment où t'achètes le truc de base, je trouve que c'est hyper.
Le pitch, je le trouve extraordinaire, vraiment. Le point de départ, je trouve.
Attends, ça dépasse pas.
J'ai adoré la bande annonce. Je sais pas.
Ouais, bah oui, mais tout est là, tout est là.
Ah d'accord.
Non, je suis désolée.
Je viens de me gâcher, moi. Moi, j'irai quand même le voir.
Très prétentieux et je trouve que ce qu'il raconte a déjà été raconté mille fois mieux par le dogme, par toute cette même Kubrick. Enfin, je veux dire, c'est des thèmes, je sais pas, moi j'ai pas du tout, je trouve la mise en scène ultra pompeuse. Enfin, ça m'a pas du tout plu, voilà, je me suis profondément ennuyée, mais j'ai beaucoup aimé Les Combattants aussi. Voilà, on peut parler du film qui fait l'unanimité en France et à l'étranger. Voilà.
Non, on connaît des gens qui n'ont pas aimé Les Combattants. On les citera pas.
Oui. Ouais, on parle de bip.
C'est le moment.
Il y a eu un gros débat.
Dis-le avec une chouquette dans la bouche. Et sinon, pourquoi Mafia Princesse? Pour finir pour la question la plus débile possible.
Et surtout par la réponse la plus anecdotique possible.
Parce que moi j'entends Mafia Princesse, je me dis bon, elles envoient pas des têtes de chevaux à leurs ennemis mais des têtes de licorne. Est-ce que j'ai raison?
Bah, des têtes de poney.
De poney.
D'accord.
Ah ouais, de petits poneys. Parce que ça a été une blague à un moment justement. Dans Cousine, on avait fait avant de choisir le prénom, on avait fait ce truc-là où elle retrouvait la moitié d'un petit poney. Entre cousines, elle s'était volé leur petit poney quand elle était petite et elle voulait le récupérer et puis elle le retrouvait à moitié coupé dans son lit.
Il y avait beaucoup de flashbacks dans cette série, en fait. C'est pas une série pour les 4-5 ans.
Ouais, c'est clair.
Et donc voilà, non mais alors en fait le nom en soi vient d'un truc qui n'a rien à voir, voilà, qui quand j'étais ado avec ma meilleure amie, on avait plein de potes qui travaillaient dans des bars et dans des restos rue Princesse dans le 6e.
D'accord.
Et dans les environs, et donc on payait rien, on passait nos week-ends à aller d'un bar à un autre en ne payant rien. Et ma pote avait appelé ça la Mafia Princesse. Et on avait toujours dit, si on monte une boîte de prendre un jour, enfin, on appellera ça la Mafia Princesse. Et en fait, on a à un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ce premier projet Cousine, et on trouvait ça un peu bizarre de mettre 5 noms sur la page de couverture. On trouvait que ça faisait beaucoup. Donc, on s'est dit, en plus, on avait déjà, il y avait pas, déjà,
ouais. C'est voilà. Remerciement, non, c'est les états.
Et donc, il y avait déjà le SAS et les Indélébiles et la Squadra qui existaient, qu'on connaissait. Et on s'était dit, bon, bah voilà, il faut trouver un nom de collectif, quoi.
Bah, en fait, exactement, au début, on cherchait plus comme un pseudo pour ce premier projet qu'un nom de collectif. Et en fait, c'est resté parce que, justement, d'accord, comme il y avait ces collectifs qui existaient, qu'on a rencontrés assez vite en festival et tout, on a assez vite été identifiés nous-mêmes comme un collectif. Et ce nom nous a collé à la peau alors qu'on ne l'avait pas vraiment choisi au début comme un nom de collectif. Et tant mieux parce
que. Quand je l'ai dit au début, si tu veux, on a fait. C'est drôle, quoi. Tu vois, j'ai dit, bon, bah, moi, il y a ce truc-là.
C'est drôle, mais c'est pas sérieux, quoi.
Oui, on s'est pas dit que c'était sérieux, en fait. On s'est dit, bon, de toute façon, on n'avait pas prévu de faire d'autres projets encore. Enfin, voilà, on n'avait pas prévu de former un vrai collectif. C'était un projet, quoi. Mais bon, vous avez tout le monde a fait, ah ouais, c'est marrant, c'est sympa. Et puis, il y avait cette association de mafia et princesse qui était intéressant dans ce qu'on est.
L'oxymore fondateur de notre collectif.
Et voilà pourquoi elle est bonne pour les notes d'intention. Et donc voilà, et c'est vrai qu'après, en fait, on a été invité à un moment à Valence pour présenter le collectif. Donc, bon, bah, on avait ce nom-là. Et puis, c'est resté. Et puis, bon, maintenant, on voit, il y a des gens, tout de suite, ils nous disent, ah, c'est génial, la Mafia Princesse. Puis, il y en a d'autres où on sent, genre,
ils sont un peu gênés.
Quand même, elle s'appelle Mafia Princesse, quoi, tu vois. Et bon, bah, nous, on va vers ceux qui trouvent ça génial, évidemment.
Donc, globalement, les prods trouvent ça assez.
Ouais, il y a un prod qui nous a dit, oh là là, vous êtes trop forte en marketing, les meufs, la Mafia Princesse et tout. On était genre, ouais, enfin, tu sais.
Après, hier, j'étais dans un festival ultra féministe. Enfin, c'est le festival féministe. Et je me suis retrouvée genre dans un colloque hyper sérieux à Créteil avec des nanas qui écrivaient des poèmes et des textes de 5 pages sur la condition de la femme. J'étais pas très à l'aise quand on m'a dit vous faites partie de la mafia princesse. Oui, non, c'est un collectif.
Alors petit poney paillette.
Vous avez une tiare ou quelque chose comme ça.
Ah ouais, alors, je rigole pas avec ça, mais ça a été un sombre débat de la mafia française, Claire, l'histoire de la tiare.
Charlotte a refusé de poser avec une tiare. Voilà. Elle vous a caché.
Là, mais je crois pas si bien dire.
Si on veut faire peur à Charlotte, on lui dit ah, on vient avec des couronnes, avec des déguisements. Et là, tu la vois qui blanchit. Je sais pas pourquoi elle nous prend toujours premier degré quand on dit ça.
Parce que vous êtes vraiment capable.
C'est vrai.
Et juste, on pouvait peut-être dire que là, on va aller à Valence au Festival des scénaristes. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Et ça nous plaît beaucoup. On organise un cadavre exquis géant avec les habitants de la ville.
Et donc les scénaristes.
Pendant deux soirées, on va dans des bars. Il y a des gens qui s'inscrivent et qui participent. On a écrit un petit fil conducteur, un début d'histoire à compléter, entre guillemets. Et les gens font des battles, et, pour résumer grossièrement, et écrivent une histoire qui est ensuite jouée par des comédiens d'impro de la ville qui sont par ailleurs excellent, hilarant, ce qui rend la soirée à chaque fois, enfin, l'an dernier, vraiment mémorable et vraiment chouette, quoi. Et voilà, et on refait ça et on est hyper contente, je crois. Ouais.
Donc, avec cette année, une histoire à suivre de bar en bar, et le dernier soir du festival, on fait tout rejouer sous le chapiteau du festival par les mêmes comédiens d'impro qui refont toute l'histoire de A à Z, en fait, quoi.
Vous allez me faire regretter de pas venir.
Ils sont vraiment incroyables.
Il y a deux équipes de 10 dans chaque bar, donc il y a 80 places entre les Valentinois et les scénaristes. Moi, je trouve que ce qui a été bien l'année dernière, c'est de mélanger justement.
Ah ouais, c'est génial.
C'était ça qui était cool. Et puis voilà, non, c'était vraiment super. Il y a des gens qui nous ont suivis de bar en bar, donc à chaque fois on arrivait avec notre troupe.
On avait une adresse.
Et là on fait ça sur deux soirs, donc il y a de la place, donc inscrivez-vous. C'est dans les bars qu'il faut s'inscrire directement, et je crois qu'il y a l'info qui sera sur le site à partir du 24 mars, il me semble.
Donc la garantie de se marrer, parce que les comédiens, quel que soit le texte, arrivent à rendre ça délirant, vraiment.
D'accord.
Et par ailleurs, Anaïs Carpita participe à un atelier discussion autour de l'écriture de 10%, et Charlotte Sanson anime elle-même un autre atelier sur l'adaptation. Voilà. Sur Pilule Bleue. Voilà, l'adaptation de Pilule Bleue qui était une bande dessinée à la base.
Oui, parce que c'est une bande dessinée, voilà.
D'accord, ok. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi.
C'était sympa, les chouquettes étaient fondantes.
Écoute, si le souvenir qui reste, c'est les chouquettes, ça va. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.